Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou aussi en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes avec Marie-Ange, membre du collectif Diwa contre la 5G, et nous avons aussi Pascal, qui est le porte-parole de l'association Stop Linky 5G Dromardèche, et vous êtes aussi bioélectricien. Vous êtes venu nous parler principalement de la 5G. Pour vous, qu'est-ce que représente la 5G ?
Alors, c'est vrai qu'on était venu au titre du collectif Diwa 5G il y a 2 mois à peu près, dénoncer à la radio, ou en tout cas alerter sur les dangers de la 5G, parce que on entend la 5G qui arrive, on la voit arriver, elle est déjà arrivée sur 10 pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, on voit aux informations, à la télé, on ne nous parle que des avantages de la 5G, mais on oublie peut-être aussi, on oublie de nous informer aussi de ce qu'il y a derrière la 5G, et notamment de tous ces dangers. Donc, on était venu un petit peu alerter il y a quelques mois là-dessus. Et puis, aujourd'hui, on revient pour vous dire un petit peu tout ce qui a été fait au niveau du collectif, les personnes qu'on a rencontrées, et voilà, vous informer un petit peu là-dessus.
Cela fait des années qu'il y a cette lutte contre le déploiement de la 5G. Est-ce que, quelque part, cette lutte a porté des fruits aujourd'hui ?
Aïe. Moi, je suis un peu désespérée, bon. Quoi, quelque part. Je suis désespérée parce que nous, on essaie de faire des actions au niveau local. Hein. On est des simples citoyens, des simples diwans, et on se dit qu'il faut alerter sur ce danger. Alors, on alerte dans le journal du diwans pour informer les diwans. On alerte sur la radio locale, Radio Diwans. On va voir nos élus. Donc, on est allé voir, on a communiqué, on a envoyé des mails à plus d'une cinquantaine de mairies sur le Diwa et le Haut-Diwa à plusieurs reprises pour leur demander s'ils étaient au courant, pour leur demander de prendre position. Sur les 50 mairies qu'on a alertées, il y en a 5 qui ont pris position pour demander un moratoire pour sur les dangers de la 5G. Voilà, il y a 5 mairies qui se sont positionnées. Il y a la mairie de Die qui s'était positionnée, il y a la mairie de Minglon, dernièrement la mairie de Marignac, il y a la mairie de Saint-André-aux-Lanquin et la mairie de Solor. Et puis, on a aussi voulu alerter et informer nos élus, comme la communauté de communes. Parce que quand on va rencontrer les maires, ils nous disent « Mais est-ce que vous avez vu la communauté de communes ?» Alors, bien sûr, on se déplace et puis on va voir la communauté de communes. Et puis, la communauté de communes nous renvoie un peu sur les mairies. C'est un petit peu toujours, un petit peu, voilà, on s'en sort pas. On alerte aussi les conseillers généraux, les députés. Là, aujourd'hui, je devais avoir un rendez-vous avec la sous-préfète. Il a dû être annulé au dernier moment parce que notre sous-préfète a été appelé sur des missions...
De présence,
d'urgence.
D'urgence, voilà. On doit également rencontrer Madame de Laverne. C'est pareil, le rendez-vous a été retoqué 3 fois... pour divers motifs. Donc, voilà. Donc, on continue à alerter. Par contre, chaque fois qu'on a des rendez-vous et qu'on peut en discuter avec les élus, le problème, et là, en tout cas, ce qu'on ressent, ce qu'on comprend, c'est que la demande qui est faite, en tout cas, le souhait de nos élus, c'est d'amener la 4G ou la 5G partout sur le territoire. Et de ne plus avoir de zone blanche. Et par contre, ils ne sont pas du tout au courant ou ils ne sont pas complètement informés sur les dangers de la 5G. Donc, voilà.
Pascal, quelles sont vos sources, justement, pour établir un peu cette lutte face à ce déploiement de la 5G, prioritairement, même si vous associez la 5G avec cette association Stop Linky Dromardèche?
Alors effectivement, alors pour la thématique de la 5G est venue naturellement pour nous dans nos buts et dans notre volonté d'informer les gens sur ces nouvelles technologies. Alors effectivement, c'est parti, on s'est formé dans le cadre du déploiement du compteur Linky sur nos départements, hein, la Drôme et l'Ardèche. Mais quelque part, il faut savoir aussi que la 5G fait partie du squelette, un petit peu, des nouvelles technologies qu'on est en train de nous imposer. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qui a déjà été dit et pour préciser certaines choses, alors c'est vrai que la position des élus est souvent ambiguë et on a l'impression que, bah, effectivement, on se rejette la patate chaude. Il faut savoir que le déploiement de la 5G en France, c'est parti un peu comme le Linky. Hein, c'est quand même une volonté gouvernementale de déployer cette technologie. Et donc, souvent, les élus qu'on rencontre nous disent, bah, c'est pas ma faute. Hein, nous, on n'a pas les pouvoirs, on peut pas ci, on peut pas ça. En fait, il faut savoir que la 5G, comme le Linky, le déploiement des compteurs communicants, alors il n'y a pas que le Linky, hein, je cite en substance le Gaspard pour le gaz et l'Aquarius pour l'eau. Et tout ça, en fait, ça part d'en haut. Et donc, effectivement, nos élus, ont un peu de difficultés, mais il faut qu'effectivement qu'ils réagissent, qu'ils se documentent, qu'ils aient l'intelligence, parce que ce qui vient d'en haut, est-ce que c'est raison ou pas ? Après, effectivement, alors pour les sources, pour rebondir sur le questionnement qui était fait sur les professeurs Raoult et j'en passe et des meilleurs, et les professeurs Perron, bah, globalement, c'est pas compliqué, entre guillemets, d'isoler les gens. Et j'estime que ces deux personnes, dans le débat, se retrouvent un peu seules. Et donc, quand on arrive à isoler quelqu'un, bah, c'est pas trop compliqué de dire que il est ci, il est là, il a fait ci, il a fait ça, il n'est pas bon, etc. Bon, donc ça, c'est une politique, c'est pas propre, effectivement, aux événements qu'on a connus. Après, ce que je souhaitais évoquer, effectivement, dans le prolongement de ça, pour revenir un petit peu sur la 5G, globalement, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite faire, et alors que ce soit Stop Linky 5G Drôme Ardèche ou les collectifs 5G qui sont formés, c'est d'alerter et d'informer les gens sur les impacts de ces technologies. Alors, les impacts, il y a trois grandes rubriques. On va dire qu'il y a l'impact sanitaire, sur lequel je vais revenir, l'impact environnemental et puis l'impact sociétal. À mon avis, c'est vrai que le principal sujet qu'on va essayer de développer ici, c'est la santé, l'impact sanitaire. Alors effectivement, bon, la 5G, il faut savoir que ce n'est pas une technologie qui en efface une autre. C'est-à-dire que dans les villes de Seattle, de Wuhan, hein, ou de Lombardie, effectivement, il y avait la 2G qui fonctionnait toujours, il y avait la 3G qui fonctionnait toujours, la 4G qui fonctionne toujours, et on envoie la 5G. Et il n'y en a pas une qui efface les effets de l'autre. Par contre, du point de vue sanitaire, il y a quand même des études qui ont été faites sur les effets, ce qu'on va appeler les effets biologiques ou athermiques. On va parler d'effets biologiques, c'est plus simple, c'est plus compréhensible, de ces technologies-là. Et notamment, dans certaines études sur le sujet, il a été prouvé par, allez, je vais annoncer un chiffre, mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Mais il doit y avoir une cinquantaine, une soixantaine ou peut-être 100 études qui pointent un effet de l'exposition au champ électromagnétique, par rapport, quand on les expose, à assez hautes fréquences. Et un des effets, c'est la baisse de l'immunité. Donc, c'est facile à comprendre. Quand vous êtes dans un contexte où, globalement, votre immunité peut être déjà dégradée par ce que vous mangez, par les pollutions chimiques et autres, et qu'en plus, on vous rajoute quelque chose qui contribue à faire baisser votre immunité, ben, globalement, ben, quand votre immunité est dégradée, vous tombez malade. Et d'ailleurs, on voit bien que le problème de l'impact du SARS-CoV, c'est aussi un problème d'immunité. Hein. Les enfants sont contaminés par le virus, ils ne sont pas malades. Par contre, ceux qui ont l'immunité la plus dégradée, les personnes âgées et les personnes à comorbidité importante, eh ben, ils tombent gravement malades. Voilà. Et donc, les impacts sanitaires de ces technologies-là, et notamment de la 5G, effectivement, il faut les prendre en compte. Et c'est en ce sens qu'on souhaite effectivement apporter cette information-là. Alors, il faut préciser aussi une chose, et c'est important. Ce qu'on veut dire aux auditeurs, c'est qu'on ne naît pas électrosensible. C'est-à-dire que aujourd'hui, Marie-Ange, on est impacté. Hein, l'électrosmog ambiant qu'on a autour de nous, il est bien là. Bon. Nous, on n'a pas spécialement de ressenti. Par contre, il y a des personnes, effectivement, qui ont des ressentis. Donc, l'impact est là. Par contre, effectivement, l'effet sanitaire et d'impact, il apparaît que chez certaines personnes. Mais par contre, ce sur quoi je veux insister, c'est pas parce que moi, aujourd'hui, je ne suis pas électrosensible, hein, ou tout du moins intolérant au champ électromagnétique, que demain, je ne vais pas le devenir. Parce que le problème de cette pathologie-là, parce qu'il faut bien parler de pathologie en termes d'électrosensibilité, c'est que c'est un peu un phénomène allergique. À savoir qu'on est arrosé, on est arrosé, on est arrosé. Chaque individu a un seuil de tolérance. Tant qu'on est dans le seuil de tolérance, ça ne se passe pas trop mal. Et quand on a claqué le seuil de tolérance, et ben là, on commence effectivement à avoir des signes probants d'un impact réel avec des ressentis de cet environnement électromagnétique. Il faut savoir que l'environnement électromagnétique dans le monde a été multiplié par plus de 10 millions en l'espace de 10 ans. Et donc, autour de nous, on a un brouillard d'ondes, les unes n'effaçant pas les autres, qui se constitue et qui s'épaissit de plus en plus.
Et qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas.
Effectivement.
Voilà, c'est ça le danger, c'est que c'est invisible, personne n'y croit, ou en tout cas, les gens n'y croient pas quand on leur dit attention. Alors, parce que moi, je suis un petit peu électrosensible, ça a été reconnu, je commence à l'être.
Comment ça se signale, justement, cette sensibilité physiquement?
Eh bien, ça commence par des maux de tête récurrents, par des acouphènes, par un mauvais sommeil, par des vertiges. Et chaque fois qu'on approche d'une borne Wi-Fi, on se dit « Ah ben tiens, c'est bizarre, j'ai des vertiges, qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'un moment, on commence à faire le lien. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez un ami, je ne me suis sentie pas bien, j'ai commencé à avoir un malaise. Et je lui ai demandé s'il avait la Wi-Fi. Il m'a assuré que non, parce que c'est une personne qui a 70 ans et qu'il ne connaît pas la technologie. Donc son fils lui avait dit « Papa, tu n'as pas la Wi-Fi chez toi ». Il était persuadé qu'il ne l'avait pas. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un vrai malaise en me disant « Il faut que je sorte ». Et quand je suis revenue, j'ai fait un test, j'ai vérifié. La Wi-Fi était bien dans sa maison et il ne le savait pas. Et il me dit « C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai une amie qui est venue, qui était installée au même endroit que soi ». Et elle était devenue toute blanche et au bout d'un quart d'heure, elle est partie en disant « Excuse-moi Pierrot, je ne me sens pas bien chez toi, je m'en vais ». Et c'est là qu'on a découvert que la Wi-Fi plus le téléphone sans fil qu'il avait chez lui, c'était trop pour une personne qui commence à être électrosensible.
Effectivement, les téléphones sans fil sont très émetteurs de rayonnement. Hein. Nous étions équipés justement il y a quelques années dans nos bureaux de ce type de téléphone qu'on a dû enlever parce qu'il y a eu une étude justement sur les ondes émises et elles sont extrêmement nocives, très courtes.
Je confirme tout à fait tes propos et les propos de Marie-Ange. On s'aperçoit, par les propos de Marie-Ange, effectivement, que en fait, ça va un petit peu dans la ligne de ce que je disais, c'est-à-dire que l'électrosmog, il est là. Et il est créé par des objets qui sont devenus des objets du quotidien. Alors, pour la plupart des gens, effectivement, un DECT, hein, téléphone sans fil, ça, DECT, c'est le terme barbare qu'on utilise techniquement, un téléphone sans fil, eh ben, c'est, moi, je suis désolé. Quand je fais des mesures, alors, Je fais une petite aparté sur le sujet. Les ondes électromagnétiques, on ne le voit pas, elles ne sentent rien, etc., etc. Par contre, il faut savoir que ça se mesure. Okay ? Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas et qu'on ne les sent pas qu'on ne peut pas les mesurer. Et moi, dans mon métier, au quotidien, je mesure. Et je mesure la quantité, la densité de ces pollutions. Ça, fermez la parenthèse. Et pour revenir sur le sujet des DECT, effectivement, alors un DECT, le problème, c'est qu'un téléphone sans fil, pardon, le problème, c'est qu'il émet en permanence. Et effectivement, je dirais, sans vouloir dédouaner les autres technologies, mais c'est encore plus, passez-moi l'expression, dégueulasse, que la Wi-Fi ou que le Bluetooth. Mais aujourd'hui, dans une habitation, d'accord, on se retrouve avec le DECT qui rayonne, la Wi-Fi qu'on pensait ne pas fonctionner, mais qui fonctionne. Alors là aussi, c'est pareil. Moi, je vois des gens qui ont une box et qui me disent « La box, non, je suis en filaire. Ouais. » Et puis, je vois le bouton Wi-Fi qui est allumé. Alors, effectivement, il faut dire aux gens qu'une box, elle peut très bien être connectée en filaire. Mais si vous ne switchez pas, vous n'éteignez pas l'antenne Wi-Fi de la box, eh ben, la box, ça sert à rien, mais l'antenne, elle arrose. Les imprimantes, c'est pareil. Les imprimantes, on les connecte. Certaines personnes disent, effectivement, je les connecte en filaire parce que c'est vrai que c'est plus stable au niveau communication. Il n'y a pas de coupure de signal, choses comme ça. Mais il y a des gens qui disent, mais mon imprimante, elle est en filaire. Tiens, mon œil, moi, quand je viens avec mes appareils, je suis désolé, je trouve bien des signaux qui sont du domaine de la Wi-Fi. Et tout ça, bien évidemment, c'est... entre guillemets, l'habitation aujourd'hui, c'est une image peut-être un peu forte, mais ça devient un micro-ondes. C'est-à-dire que vous vivez dans un environnement de plus en plus densifié. Et le problème aussi de l'impact de ces pollutions-là, c'est que plus vous êtes proche des sources, plus l'impact est fort. Donc il faut bien comprendre que quand dans la maison, c'est pas bon, c'est sûr que ça risque... l'impact va être malheureusement augmenté. Et là, on reste dans la maison. Mais le problème de ces technologies-là, c'est que vous avez aussi le téléphone sans fil du voisin. Porté d'un téléphone sans fil, 300 mètres. Donc, dans un logement collectif, je vous fais pas un dessin. Dans un lotissement, c'est pareil. Tout le monde en prend plein la tronche. Et le seul moyen aussi, le moyen que peuvent avoir les gens sur le fait que leur voisin leur envoie aussi... entre guillemets, sans jeu de mots, des mauvaises ondes, la personne qui allume son ordinateur et qui regarde les réseaux à portée de l'ordinateur, dans un immeuble, par exemple, vous retrouvez avec une liste de 15 émetteurs Wi-Fi probables, et ça correspond aux box de tous vos charmants voisins.
Voilà. Sans compter, puisque la 5G le permet, la communication avec l'électroménager qui sera doté de ce type de communication aussi, certains frigos.
Tu as tout à fait raison par rapport à ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, les objets, alors ça aussi, il faut bien le signaler, la 5G, ce n'est pas qu'un chiffre de plus rajouté à une évolution de technologie qui sert à la téléphonie mobile. OK ? Alors, certes, effectivement, avec la 5G, il y a un chapitre qui concerne l'évolution des émissions et des ondes qui sont utilisées pour la communication téléphonie mobile, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va passer, actuellement, la 4G+, on était avec aux alentours du 2,7 GHz d'ondes. Avec la 4G, on va rentrer dans les 4,7. Bon, ça, c'est une chose. Il faut savoir par contre que dans la 5G, il y a une bande de fréquences qui était jusqu'à présent utilisée par l'armée, par les militaires. C'est la bande des 26 gigas. Donc là, vous voyez, on va arroser la population non plus avec du 2,4 ou du 4,7, mais avec du 26 gigas. Et le 26 gigas, à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à faire communiquer les objets entre eux. Et le lien aussi se retrouve... par rapport à ça, avec le fameux Linky, c'est que le courant porteur en ligne du Linky peut effectivement aussi aller chercher des informations, alors en utilisant non pas la 5G, mais en utilisant le courant porteur en ligne, pour aller récupérer d'autres informations que les seules données de comptage qui devraient être la vocation unique et définitive d'un compteur d'électricité ou d'un compteur de gaz, pour le gaz. Et donc, On en rajoute. Et à force d'en rajouter, le problème est là, c'est que l'humain, et il n'y a pas que l'humain qui est concerné, et là, on va vers l'aspect environnemental, le vivant, en prend aujourd'hui plein la tronche. C'est-à-dire que les végétaux qui ont des fonctionnements, il faut savoir que nos fonctionnements aussi, et pourquoi il peut y avoir des effets biologiques. Notre corps, le vivant, fonctionne sur des principes de bioélectricité, d'accord ? C'est-à-dire que même au cœur même d'une cellule, il y a des plus, il y a des moins, il y a des charges électriques, des courants, des machins. Quand vous faites un examen, quand vous faites un électrocardiogramme, c'est qui envoie les signaux électriques à la machine ? C'est le cœur. L'électroencéphalogramme, donc c'est pareil, c'est le cerveau qui envoie des signaux. On a des fonctionnements bioélectriques. Et donc, vous devez bien vous douter que quand vous mettez quelque chose qui fonctionne à l'électricité avec quelque chose qui aussi fonctionne à l'électricité, mais qui a des intensités ou des fonctionnements plus forts, eh ben, y a effectivement risque de perturbation, comme on dit. Il peut y avoir de la friture sur la ligne. Et en termes de radio, vous le savez très bien. Si moi, je sors de ma poche et que j'allume un transformateur électrique hein, à côté de mon micro... Eh ben, vous allez voir ce qui va se passer. Hein, ça va faire. Voilà. Eh ben, c'est la même chose. Alors, pour l'homme, c'est la même chose pour le vivant. C'est la même chose pour les animaux aussi. Hein. Alors, les animaux font partie du vivant. Et d'ailleurs, sur ce sujet, moi, il faut savoir que le secteur vétérinaire est beaucoup plus enclin à reconnaître les effets des rayonnements électromagnétiques sur les animaux que sur l'humain. Et ça, quand même, ça devient très grave. Et pourquoi, effectivement, ben, il en est ainsi? C'est que le problème de ces technologies-là, qu'en face de ça, derrière tout ça, il y a un business énorme, hein, il y a des milliards d'euros, hein, ou des milliards de dollars, et que la santé des gens, par rapport à des milliards de dollars, eh ben, elle ne pèse absolument rien.
C'est vrai que quand on est dans une ferme, moi, j'ai lu plein d'articles sur ce sujet où des fermiers témoignaient que leur vache tombait malade parce qu'une antenne a été mise à proximité ou parce qu'on a mis la Wi-Fi dans les tables, etc. Et on ne peut pas dire à une vache, mais écoute, c'est dans la tête. Hein. Quand une vache commence à ne plus faire de lait, commence à faire des mamites carabinées ou décède, voilà, on sait bien qu'il y a un problème quelque part. Souvent, ces fermiers n'étaient pas forcément alertés par le problème des ondes. Ils le sont devenus parce que leur cheptel commençait à tomber malade.
Et il n'y a pas que les nouvelles technologies qui impactent les troupeaux. Et il n'y a pas que les nouvelles technologies aussi qui maintenant présentent un risque pour la santé. Comme je l'ai expliqué, tous ces rayonnements électromagnétiques, d'accord, se cumulent. Et il y a un rayonnement électromagnétique dont on se satisfaisait, enfin, pour lequel on n'avait pas trop de soucis, bon, sauf dans des domaines industriels où les gens étaient fortement exposés. Mais l'électricité est un polluant aussi majeur électromagnétique de notre environnement. Et pour revenir sur les troupeaux, certes, il y a des installations effectivement qui sont complètement robotisées. Les vaches, elles ont des puces RFID et youpi et machin. Et tu vas à la traite et c'est quand ça comptabilise patin, coup fin, etc. OK. Mais il y a des problématiques aussi par rapport à l'implantation de champs d'éoliennes et des lignes haute tension de production qui passent sous les sols. Et je peux vous dire que les vaches, elles ne sont pas isolées du sol. Et quand un troupeau se retrouve complètement... négliger l'espace d'un champ ou une mare dans lequel ils allaient boire, bah, les écoles vétérinaires et même les chambres d'agriculture de Bretagne se sont posées la question, qu'est-ce qui se passe? On a fait intervenir des bioélectriciens et des géobiologues et il est bien confirmé qu'on a des champs électromagnétiques importants et la vache, le champ électromagnétique, eh ben, elle n'aime pas bien. Et dans nos habitations aussi, le problème de l'électricité aujourd'hui, et notamment pour les personnes électrosensibles ou intolérantes aux ondes, c'est un cocktail. Il y a un effet cocktail. Et donc l'électricité, c'est aussi, ça fait partie des sollicitations et des préconisations de mon métier, l'électricité peut aussi, devient aujourd'hui impactante du fait de cette recrudescence.
D'ailleurs, sans paraître incongru, mais est-ce que, justement, vous parliez de l'invisibilité de ces fréquences, de ces rayonnements, est-ce qu'il existe, à votre connaissance, un travail vidéo, par exemple, qui vulgarise un peu l'explication que vous donnez, puisqu'on parle d'invisibilité, est-ce qu'il y a des animations qui permettent, justement, de mieux faire comprendre au public les enjeux et les dangers de ces fréquences. Une autre question à savoir aussi, est-ce qu'il existe une application sur portable, téléphone portable, pour mesurer justement ces radioémissions?
Alors,
on reparle du téléphone portable. on en revient toujours au téléphone portable.
Oui, mais je veux dire, c'est ce qui existe.
Oui, c'est ça. On sait plus faire autrement.
C'est un outil qui permet aussi de certainement capter des fréquences. Et est-ce que ça, c'est une possibilité?
C'est vrai que, comme ça fait réagir Marie-Ange, mais elle a un petit peu raison. On ne peut plus se passer de nos portables. Alors, il existe effectivement, alors pour répondre à ta question, il existe bien évidemment des systèmes relativement accessibles, j'ai bien relativement accessibles, pour mesurer son taux d'exposition. D'accord ? Donc si les gens, effectivement, ils veulent savoir ce qui se passe sans pour autant faire venir un bioélectricien ou un auditeur conseil en pollution électromagnétique, d'accord ? Bon, bah, effectivement, ils achètent l'appareil et ils peuvent voir de même qu'il se passe des choses. Après, les sites de vulgarisation, il y a des choses qui sont très bien faites, effectivement. Alors, les buts aussi poursuivis, hein, par que ce soit le collectif 5G10 ou l'association Stop Linky 5G Drôme Ardèche, c'est aussi d'informer. Et dans nos réunions, on ne va pas que parler pendant des heures et des heures aux gens de bah ouais, l'environnement, le machin, etc. On essaye déjà en préambule de leur expliquer comment ça fonctionne et de la manière la plus vulgariste possible, que ce soit accessible. Parce que la difficulté, effectivement, c'est aussi le problème. Je pense qu'ont aussi nos élus, quand ils reçoivent des rapports, hein, de l'ANSES, du CSTB, j'en passe et des meilleurs, qui leur parlent de kilohertz, de mégahertz, de machin, de bits, de trucs, bah, je suis désolé. Je dirais qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent, entre guillemets, y retrouver leur latin. Et c'est là aussi où l'importance de nos actions, c'est d'expliquer aux gens, avec des mots simples, des choses simples, des photos, des schémas, un petit peu comment ça fonctionne. On n'a pas vocation à faire des personnes qui viennent nous voir, qui assistent à nos réunions, de faire des spécialistes des rayonnements électromagnétiques, etc., etc., ou de l'électricité. Mais il faut que ça se sache. Et effectivement, c'est tout à fait possible de le faire. Alors, et pour terminer sur le questionnement, alors effectivement, pour les personnes, entre guillemets, qui disent « Ouais, bon, il est gentil, le monsieur, là, à la radio, il parle, il dit, il faut acheter des appareils. Bah, moi, je veux quand même bien voir et je veux pas laisser tomber mon fameux portable. » Bah, effectivement, il existe des applications. Hein. Alors, j'en cite une. Alors, je suis pas marié avec. Hein. Ça s'appelle ElectroSmart. Hein, effectivement. Alors moi, je vous cache pas que je l'ai testé, je l'ai installé sur mon appareil. Bah, effectivement, tous les soirs, hein, j'ai le compte-rendu de tout ce à quoi j'ai été exposé. Ça me dit quand même si j'étais dans des taux d'exposition costauds ou pas costauds. Hein. Alors soit c'est vert, soit c'est jaune, soit c'est rouge. Etc. Et en instantané, si je paramètre cette application, je peux lui dire bah, écoute, cocotte, si je suis dans une pollution haute fréquence liée à un réseau qui soit Wi-Fi ou autre, bah, tu m'envoies un message d'alerte, tu te mets à couiner. Bah, effectivement, c'est possible de le faire. Effectivement.
Est-ce que tu pourrais nous dire, par exemple, dans une maison, quand on a un téléphone portable, si ça rentre dans le vert, orange ou rouge? Et si on a une tablette, et si on a par exemple un babyphone, tu les mettrais dans le vert, orange ou rouge, comme ça, vraiment, grosso modo.
Alors,
en très gros.
Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le problème du fait que ces pollutions-là, en fait, elles reviennent dans l'habitat. Et je reprends mon schéma, l'image que je parlais tout à l'heure, c'est le micro-ondes. Déjà, ce qui est important, c'est dans une maison, c'est de connaître les sources. D'accord ? Et quand on connaît les sources, il y a un phénomène physique par rapport à ces rayonnements électromagnétiques, pardon, c'est que l'impact du rayonnement diminue avec le carré de la distance. Donc, pour faire clair, ça diminue très vite à partir du moment où on s'éloigne. Donc, ce que je veux dire, effectivement, c'est que ce qui est bien, c'est que les gens sachent déjà qu'un appareil est émetteur ou pas émetteur, et plus ils s'en écartent, moins, effectivement, ils sont impactés. Le babyphone, bah, moi, je n'ai jamais vu des parents qui foutaient le babyphone dans la salle de bain, donc l'émetteur dans la salle de bain, qui est proche de la chambre du bébé, et le récepteur, pour eux, qui est dans le salon. Malheureusement, le babyphone, il est accroché au landau, hein, ou au lit. Donc, globalement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en dessous, quand on est dans la distance des 1 mètre à 1,50 m, pas bon. Alors effectivement, bah, pour répondre à ta question, Marie-Ange, oui, un babyphone qui est à moins d'1,50 m d'un bébé, eh ben, c'est rouge. un téléphone sans fil, à côté de la base, c'est rouge de chez rouge, et malheureusement, dans le salon, c'est rouge, dans la chambre, c'est rouge, dans la salle de bain, c'est rouge, parce que lui, il a une portée de 300 mètres. Mmh. Donc, en fait, il sillonne large. Alors, si on habite un château, bah, effectivement, 600 mètres carrés, machin, il y a moins d'impact. Mais le téléphone DFCT, c'est carton rouge.
Je peux donner un exemple là-dessus, puisque j'ai découvert que ma voisine d'à côté avait deux téléphones sans fil. Je l'ai découvert parce que j'ai donc un ami électrosensible qui est passé avec ses détecteurs et qui m'a dit « Marion, tu as un souci dans ta maison parce que ta voisine apparemment a deux téléphones sans fil dans sa maison et ils émettent jusque chez toi, mais ils émettent assez fort ». Donc j'ai demandé à ma voisine, je lui en ai parlé je lui ai proposé une solution. Puisque ces téléphones sans fil, il y a une solution qui n'est pas miraculeuse, qui n'est pas merveilleuse, mais c'est déjà un premier pas, c'est la solution qu'on appelle Eco-DECT. Ce sont les mêmes téléphones, ça coûte une trentaine d'euros le téléphone. Et ils se coupent quand on ne téléphone pas. Et du coup, ça limite l'impact et la pollution électromagnétique uniquement lorsque l'on appelle. Donc, je remercie ma voisine d'avoir accepté de changer son téléphone. Voilà.
Les prémices, et ça, il faut y insister là-dessus, les prémices de, on va dire, de ce qu'on va appeler l'électrosensibilité, mais moi, ce que j'appellerais, moi, des syndromes d'intolérance aux champs électromagnétiques, c'est malheureusement des mots du quotidien. Qu'est-ce que c'est les maux du quotidien? C'est effectivement des maux de tête. Ok, bon, on en fait son affaire. C'est le sommeil non réparateur. Je me couche fatigué, je me relève fatigué. Lorsque je passe plus d'une heure devant mon ordi, au début j'ai la pêche et au bout d'une heure c'est la catastrophe. J'ai l'esprit qui se trouble, j'ai un peu la tête dans un nuage, je peux avoir des nausées, etc., etc. Quand quelqu'un a ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir son toubib. Salut doc, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai ça. Oh, vous devez être un peu fatigué ou vous n'êtes pas un peu surmené. Allez, hop, j'ai trouvé la solution. Je te donne un antidépresseur. Si tu as mal à la tête, je te donne du doliprane. Le problème, c'est qu'en France et encore dans beaucoup de pays occidentaux, c'est que la médecine, on va dire occidentale, traite des symptômes et traite effectivement des conséquences. Et que les causes, on ne veut pas en entendre parler. Et il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir mal à la tête? Alors, il y a des causes effectivement tout à fait probantes. Hein, un nerf bloqué, un machin, un virus, un truc. Mais voilà. Pour faire très vite sur le sujet du Linky, il y avait un premier arrêté, effectivement, une décision qui avait été validée par l'ancienne mairie, passe à l'actuelle. Et effectivement, en fait, on fait tout. Mais ça, c'est vu que ça vient d'en haut, d'accord, c'est gouvernemental. Donc, les relais des gouvernements sur le territoire, c'est quoi? C'est les préfets. Et donc, quand une mairie fait un arrêté, ça passe par le contrôle de légalité en préfecture. Donc, les préfets, on leur a dit... Vous dites au maire, quand ils font un arrêté, ils n'ont plus la capacité de pouvoir prendre des arrêtés comme ça. Arrêtez frappé d'illégalité, au revoir et merci. On enlève, il y a ce problème-là aussi, c'est qu'on enlève de plus en plus de pouvoir aux élus, et effectivement, ils n'ont pas la main mise. Alors, sur le sujet quand même du Linky, il faut savoir quand même qu'il y a eu une position avec la nouvelle magistrature, entre guillemets, il y a eu une nouvelle position qui est faite, qui a été prise, alors c'est pas un arrêté en tant que tel, hein, c'est un vœu ou une motion, mais le maire de Die actuellement confirme bien aux usagers qu'ils ont le droit de refuser l'installation du compteur chez eux, qu'il n'y a aucune obligation légale à accepter, etc., etc. Et pour rebondir et terminer sur ce que disait Jean-Loup aussi, sur l'aspect, c'est un des aspects que j'ai évoqué tout à l'heure, sur lequel aussi on se mobilise sur la 5G. On va passer très rapidement sur l'environnemental, mais ces nouvelles technologies-là induisent des changements sociétaux. Et effectivement, on va vers une société axée sur la surveillance, axée sur la déshumanisation, l'utilisation de l'intelligence artificielle, la robotisation des tâches, etc. etc. Donc il faut que les gens touchent du doigt la problématique, parce que quand on se réveillera, malheureusement, ça sera trop tard.
Marie-Ange, Pascal, je vous remercie d'être venu nous parler de la 5G à Air Diwa et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous sommes de retour avec Pascal et aussi Roselyne pour un rendez-vous dont vous sortez avec Madame la sous-préfète Adi. Et pour cela, vous êtes ici pour nous exposer le retour de cette rencontre. Et Roselyne, donc, bonjour.
Bonjour, je suis donc Roselyne. Je remplace Marie-Ange, qui est la représentante du collectif 5G d'Iwa. Je me suis occupée plutôt du Linky dans le collectif 5G Stop Linky Grand Iwa.
Tous les deux, vous avez vu Madame la sous-préfète concernant le sujet du déploiement de la 5G. Qu'en est-il ressorti de cette rencontre ?
Globalement, moi, ce que je retiens de cette rencontre, c'est quand même des choses positives, hein, parce qu'il faut positiver. On a mis en avant une nouvelle fois ce qu'on avait déjà expliqué. C'est toutes les problématiques en lien avec cette nouvelle technologie, à savoir les impacts sanitaires, hein, alors sur l'homme et puis sur le vivant, les dégâts probables environnementaux, et puis les dégâts aussi sociétaux, également aussi tout ce qui concerne la protection des données et tout ce qui va graviter, tout ce qui gravite autour effectivement des objets connectés et de la perte un petit peu de son petit jardin secret avec ce type de technologie. Voilà.
J'ajouterai qu'il y a aussi, nous avons aussi abordé la question de la démocratie, enfin du rôle des citoyens, du non-débat. Du rôle des élus des petites communes qui ne peuvent pas refuser l'installation des petites antennes de la 5G. Et donc, nous avons échangé sur ce point-là.
Et donc, ça a été plus pour Madame la sous-préfète une mission de réception de vos doléances ou alors elle a pu vous répondre aussi à certaines questions.
Alors, ce qu'on a mis en avant, et c'est aussi le parcours et le souhait de toutes les associations ou les collectifs qui militent sur ces sujets-là, c'est avant tout d'apporter de l'information. Et donc, on a vraiment insisté sur le fait que on comptait sur elle en tant que courant de transmission pour faire remonter ce qui se passe sur le terrain. Hein. Comme l'a dit Roselyne, on a mis aussi en avant qu'on était là aussi pour informer, pour discuter, mais aussi pour dire qu'il n'était pas normal sur ces sujets aussi importants que ces choses-là soient imposées. C'est-à-dire qu'on a mis quand même bien en avant qu'il n'y avait pas eu de débat sur le déploiement de la 5G. Et je dirais, le thème, ça aurait été de dire la 5G pour qui et pourquoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin, pourquoi faire, etc., etc., etc. Voilà.
Personnellement, je pense qu'elle nous a écoutés. Je pense qu'on l'a interpellée sur certains points, puisqu'elle a pris des notes. Il y avait sa secrétaire.
Il y avait la secrétaire et de la
sous-préfecture.
Qui a pris
également des notes. Secrétaire générale. Elle nous a écoutés. On ne doute pas que ça changera peut-être pas le cours des choses, mais au moins, peut-être se fera-t-elle la transmission, fera-t-elle le transfert de nos questionnements, de notre inquiétude. Et on lui a aussi demandé de répondre à certaines questions, de se renseigner. Donc Pascal va pouvoir plus préciser.
Alors pour préciser effectivement sur ce sujet, notamment dans les impacts sanitaires, on a mis très en avant la question des électrosensibles, qui va être encore plus d'actualité dans les prochains jours, puisque je porte à la connaissance des auditeurs de Radio Diwa que mercredi prochain sera la 4e journée mondiale de l'électrosensibilité. Et on a abordé effectivement sur des points bien précis la problématique que rencontrent les électrosensibles. On a remis un dossier complet sur les impacts sanitaires pour les personnes électrosensibles. On a remis également le fameux PAP qui a été signé, co-signé par de nombreuses associations de défense d'électrosensibles, par Robin Détois, par l'association AZB. Ce PAP, c'est le plan d'action pour l'électrosensibilité. Et ce plan a été remis au cabinet du Premier ministre, Jean Castex, a été également remis au cabinet de la ministre, Madame Pompili, pour attirer l'attention sur cette problématique de l'électrosensibilité. Donc ça, c'était important, ça a été transmis et reçu. Et par rapport aux questions, sur le fait qu'on estimait que cette technologie avait été imposée sans choix des Français, pour parler globalement, on a évoqué de pouvoir participer à des réunions de concertation, parce que je sais que ça existe, que ça existait. Et là, on attend une réponse de la sous-préfète qui nous a appris également qu'elle n'était pas, elle, spécifiquement en charge du dossier des nouvelles technologies et du numérique. Et c'est son homologue, le sous-préfet de Nyons, qui a en charge ces questions-là. Et donc, elle s'est engagée à nous apporter une réponse pour que l'on puisse au moins, à minima, participer à ces réunions de concertation. Voilà.
Voilà, moi je peux rajouter aussi qu'on a évoqué le récent rapport de l'ANSES qui dit que globalement la 5G n'apportera pas de conséquences néfastes sur la santé. Ce rapport a été contre-argumenté. Une expertise par un organisme européen qui regroupe des chercheurs de haut niveau, comme le professeur Belpomme et autres, de plusieurs pays, la Suède, la Grèce, la France, l'Italie, je crois. Enfin, des chercheurs de tous les pays d'Europe qui remettent en cause ce rapport de l'ANSES. Qui leur semble insuffisant et à remettre en question. Voilà.
Ces professeurs au niveau de l'Europe, on peut visionner leurs travaux ou leur avis justement sur le 5G ?
Oui, c'est sur un site, c'est le site de CETRI, où je ne m'en rappelle plus.
Oui, c'est le CETRI. Hein.
C'est à CETRI, CETRI.fr, E-C-E-R-I. Qui constate que le déploiement de la 5G avait déjà commencé avant même que la saisine de l'ANSES n'ait eu lieu. C'est-à-dire D'accord. qu'avant même qu'ils aient émis un avis, le déploiement de la 5G a eu lieu. Donc ils remettent en question toute l'analyse et font une contre-expertise. Alors il y a le professeur Dominique Belpomme et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer. Il y a eu aussi des universitaires spécialistes en biophysique. Il y a eu aussi des consultés en tant que médecins, praticiens et représentants d'ONG. Voilà. Donc, c'est sur le site de l'ECERI, E-C-E-R-I. C'est un organisme européen qu'on peut trouver cette contre-expertise.
Il faut expertise. Préciser que c'est un organisme européen indépendant, qui n'est pas spécialement rattaché soit à des gouvernements, soit à la
autorité quelconque.
À une autorité quelconque de type ICNIRP, j'en passe, et des meilleurs. Et pour rebondir un peu sur cette question-là, par rapport au rapport de l'ANSES, les questions sont posées sur les valeurs d'exposition. Il faut savoir que le sujet des normes a été aussi évoqué avec la sous-préfète, qui a commencé, effectivement, qui a lancé le débat, puisqu'elle a dit, elle nous a dit textuellement que les émissions, que ce soit des antennes et de tout ce qui était pollution électromagnétique, étaient normées. Et effectivement, on a abordé le fameux dilemme, c'est-à-dire qu'en lui précisant quand même, alors ça, je pense qu'elle en était en partie consciente, mais que les seules normes aujourd'hui qui existent portent sur les effets thermiques des ondes et non pas sur les effets biologiques. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, et notamment par les associations d'électrosensibles, c'est qu'on reconnaisse un impact biologique sur les rayonnements et qu'à ce titre-là, on puisse définir des normes ceux qui ont déjà fait, non pas en s'appuyant sur des normes actées, mais ce qu'ont déjà fait certains pays de la communauté européenne à titre précautionnel. Il faut savoir qu'en Belgique, les valeurs d'exposition sont limitées à 0,6 volts par mètre, alors que nous, la seule norme qui fait référence, c'est 61. En Suisse, c'est 0,3. En Union soviétique, c'est 0,5, etc., etc. Les seules nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, bon, on peut recommencer, redémarrer des réunions d'information. Bon, j'ai parlé de la journée électrosensibilité. On va mettre en place des choses. Il faut savoir que au niveau de Stoplinky 5G dans Mardèche, on va mettre en place une météo des ondes qu'on va essayer de faire publier à la fois auprès des médias et de faire publier sur le site de la ville de Valence et de Bourg-lès-Valence ou de l'agglomération valentinoise pour informer la population de dire ben voilà, tel jour, à telle heure, à tel endroit, il y avait tant de pollution électromagnétique haute fréquence. Et on va essayer de systématiser, de faire ces choses-là assez régulièrement, sans prévenir, bien évidemment, les opérateurs des jours et de nos campagnes de mesure. Voilà.
Il y a peut-être aussi une réunion avec la mairie de Die pour faire une réunion d'information sur la 5G.
Pour les auditeurs, je le rappelle, pour s'informer de vos activités, comment les auditeurs peuvent-ils accéder ?
Il y a l'adresse de Stoplinky Grand Diwa hein, sur lequel
ouais. Moi, je relais.
Les gens peuvent interpeller et poser des questions. Et puis le site de Stoplinky 5G Dromardèche. Alors l'adresse mail, c'est très simple, c'est Stoplinky Dromardèche, tout attaché, sans accent, @netc.fr. Et sinon, il y a deux numéros de téléphone. Soit le mien, c'est 06 11 24 23 62.
Pascal et Roselyne, je vous remercie d'être venus nous parler donc de la 5G pour une affaire à suivre certainement.
Tout à fait, ouais. Affaire à suivre.
Ouais.
Au revoir.
Merci, au revoir. Au revoir.